Afrique, les infos à Washington.
Eric Manirakiza avec vous, 13h à Niamey, il est 8h ici à Washington. Le moment de suivre votre journal. Le programme nucléaire militaire nord-coréen constitue une menace grave et sans précédent pour les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, ont affirmé les ministres de la Défense des trois pays. Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, et ses homologues asiatiques se sont engagés lors d'une rencontre aux Philippines à accroître les pressions diplomatiques contre Pyongyang et à renforcer leur coopération militaire. Les tensions sont particulièrement fortes depuis près de 2 ans dans la péninsule en raison de l'intensification des programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, pourtant interdits par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et sur le continent africain, retour sur la mort des 13 gendarmes tués samedi dans le sud-ouest du Niger. L'attaque a visé la brigade de gendarmerie d'Ayourou dans la région de Tillabéri, près de la frontière avec le Mali. Comme pour l'embuscade du 4 octobre dans la même région, cette attaque n'a pas été revendiquée. Bagassi Koura a joint à Niamey Moussa Aksar, directeur du journal L'Événement et spécialiste des questions de terrorisme.
Ce sont des assaillants qui sont venus du Mali voisin, qui ont attaqué pour une seconde fois la brigade de gendarmerie d'Ayourou.
Alors, vous dites une seconde fois, hein, parce qu'il y a déjà eu une attaque en mai contre cette même gendarmerie.
Absolument. Mai dernier, il y a eu une attaque où les mêmes éléments, apparemment les mêmes éléments, sont venus récupérer du matériel, des véhicules et des armes. Et c'est avec ces mêmes armes, apparemment, qu'ils sont revenus pour perpétrer cette nouvelle attaque.
Et ce qui donc laisse croire que des mesures n'ont pas été prises pour parer à toute éventualité.
Absolument. Apparemment, il y a une défaillance dans le système. Donc, comment est-il que des éléments qui ont attaqué il y a au moins 3 mois de cela une brigade et que des mesures ne sont pas prises pour vraiment les anéantir quand ils reviendront. Ce qui est sûr, ici au Niger, des mesures sont en train d'être prises. Les autorités vont revoir leur stratégie de défense de ces unités qui sont le long de la frontière malienne.
Ce qui est encore plus troublant, hein, c'est que c'est dans cette région de Tillabéri où il y a eu déjà une attaque le 4 octobre où 8 soldats américains et nigériens ont été tués.
Écoutez, il y a des hommes, il y a des éléments qui sont le long de cette frontière, il y a un dispositif qui a été mis en place, mais apparemment qui n'est pas réactif.
Est-ce qu'on est parvenu à faire le lien entre les assaillants qui ont perpétré cette dernière attaque et l'attaque de Tongo Tongo le 4 octobre qui a visé notamment des soldats américains et nigériens?
Non, il n'y a pas eu, on a écouté un peu par-ci, par-là les autorités qui n'ont pas fait de lien entre les attaques, mais nous, selon notre analyse, ce sont des éléments qui viennent du Mali, qui connaissent parfaitement le terrain, qui ont des complices au sein de ces populations-là, parce que les renseignements ont failli.
Que ce soit l'attaque du 4 octobre ou celle de ce samedi, il n'y a pas eu de revendication.
Il n'y a pas eu de revendication comme plusieurs autres, des dizaines d'autres attaques qu'il y a eu dans cette zone-là. On parle d'une quarantaine d'attaques qui n'ont pas été revendiquées. Mais le mode opératoire semble être celui de Adnan El-Sahraoui qui essaie d'occuper toute cette zone-là, essayant d'opprimer les communautés qui ont des problèmes de gouvernance et surtout de pauvreté.
Moussa Aksar, directeur du journal L'Événement et spécialiste des questions de terrorisme. Au Togo, face à une opposition qui ne faiblit pas et qui a appelé hier à 3 nouvelles journées de manifestation contre le pouvoir, le gouvernement togolais a décidé de suspendre la conférence de la francophonie qui devait se tenir à Lomé du 24 au 26 novembre prochain. Le Togo traverse une grave crise politique depuis plus de 2 mois et doit faire face à une importante contestation sociale. L'opposition a appelé hier à 3 nouvelles manifestations les 7, 8 et 9 novembre pour demander la démission du président Faure Gnassingbé et une limitation rétroactive du mandat présidentiel après 2 mois de contestation populaire. Le porte-parole de la coalition a aussi annoncé des meetings à l'intérieur du pays les 28, 29 et 30 octobre ainsi que les 4 et 5 novembre.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Les Kenyans sont à nouveau appelés aux urnes jeudi pour une présidentielle à haut risque en raison du boycott annoncé par l'opposition et de l'organisation dans la hâte du scrutin après l'invalidation en justice de la réélection du chef de l'État Uhuru Kenyatta dans un climat politique délétère, marqué par de nombreuses manifestations de l'opposition implacablement réprimées par la police. La commission électorale assure être prête d'un point de vue technique et logistique après avoir été accablée par la Cour suprême pour sa gestion du scrutin invalidé. L'opposition ougandaise a dénoncé aujourd'hui la détention sans charge depuis plusieurs jours de son leader Kizza Besigye et de deux responsables du parti après une manifestation qui avait fait un mort. Les manifestants entendaient protester contre un projet de suppression de la limite d'âge pour briguer la présidence du pays. Ce projet permettrait au président Yoweri Museveni, qui a 73 ans, de briguer un sixième mandat en 2021. RDC, le parti de Vital Kamerhe, quitte le gouvernement de transition. Il a fait savoir à travers un communiqué hier à Kinshasa. Selon l'Union pour la nation congolaise, le retard et l'incertitude liés à l'organisation des élections justifient sa décision de retirer son seul délégué au gouvernement actuel, le ministre d'État en charge du budget, Pierre Kangundia. Des précisions avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans une déclaration rendue publique après une réunion de sa direction politique, l'Union pour la Nation Congolaise a décidé du retrait de son délégué au gouvernement en la personne de M. Pierre Kangundia, le ministre d'État au budget. Le communiqué signé par Vital Kamerhe justifie cette décision par le retard et la certitude de la non-organisation des élections au 31 décembre 2017. L'UNC rappelle que sa participation au gouvernement avait pour objectif de contribuer à l'organisation des élections dans le délai de l'accord de la Saint-Sylvestre et qu'à ce jour, la Commission électorale nationale indépendante n'a toujours pas publié le calendrier électoral conformément au dit accord. L'intéressé, le ministre du Budget, joint au téléphone par Top Congo FM, n'a pas souhaité commenter cette décision de son parti sortie d'une réunion à laquelle il a pris part. Notez par ailleurs que quelques heures après la publication de ce communiqué, Vital Kamerhe a, au nom de son parti, officiellement notifié le Premier ministre Bruno Tshibala de la décision du retrait de son délégué au gouvernement de la transition. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le Gabon ne donnera suite à aucune demande d'enquête internationale sur les violences post-électorales de 2016, autre que l'enquête en cours de la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a déclaré hier le porte-parole du gouvernement. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, ne savait pas que l'Organisation mondiale de la santé voulait le nommer ambassadeur de bonne volonté. Une décision finalement annulée après une vive controverse. Cette décision a provoqué un concert de critiques parmi les ONG et des pays financeurs de l'OMC, de l'OMS, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada. Les autorités soudanaises doivent garantir un accès sans restriction aux travailleurs humanitaires, a déclaré le commissaire européen à la gestion des crises Christos Stylianides au lendemain du déblocage d'une nouvelle aide de l'Union européenne pour le Soudan, 106 millions d'euros. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a promulgué une loi d'amnistie de fonctionnaires impliqués dans la corruption sous la dictature de Ben Ali. Son adoption au bout de 2 ans de controverse avait provoqué un tollé dans l'opposition et la société civile. Xi Jinping s'est définitivement affirmé comme le plus puissant dirigeant depuis 40 ans en Chine. Il est entré dans la charte du Parti communiste chinois au pouvoir à l'égal du fondateur du régime Mao Tse-tung, réuni depuis la semaine dernière en congrès à Pékin. Plus de 2300 délégués venus de tout le pays ont approuvé l'inclusion dans la charte du Parti de la pensée Xi Jinping du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Des combats meurtriers opposés aujourd'hui des unités paramilitaires du Hash al-Shabi aux djihadistes et d'un groupe État islamique dans la région de Mossoul. Cette deuxième ville d'Irak a été reprise aux djihadistes en juillet. Page sportive pour terminer. L'attaquant anglais Harry Kane de Tottenham pourrait coûter la somme record de 250 millions d'euros en indemnité de transfert si le Real Madrid souhaitait l'attirer, a estimé hier soir le président du club madrilène Florentino Pérez. Point final à ce journal. Je vous retrouve dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.